va descendre et va devenir pire. Alors si c'est terrible, n'y pensez pas, ça ne peut pas faire du mal. C'est tout simplement que vous sachiez. La deuxième chose, c'est malgré le traitement que j'ai eu, Angela m'a toujours dit que ça n'a pas changé mon accent suisse-alémanique. Mais si vous ne comprenez pas, on peut continuer en anglais, en suisse-allemand, en allemand, en portugais, ou afin que personne ne comprenne absolument rien, en olomouc, une langue que je parlais il y a 40 ans. Comme vous ne pouvez pas vérifier, il n'y aurait pas de problème si je fais un tas de fautes. C'est toujours bien quand personne ne peut vérifier, n'est-ce pas? Maintenant, si vous pensez que je suis le seul à travailler, vous vous trompez. C'est maintenant à vous de faire du travail. Prenez un bout de papier. J'espère que tout le monde en est. Et bien sûr, un stylo ou un crayon. Est-ce que tout le monde a ce qu'il a besoin? Avant d'écrire, c'est mieux de réfléchir, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu veux le lire? Malheureusement, c'est en anglais, mais tu sais le traduire, non? Je pense, à cause de cela, j'ai un mal de tête. Okay. Avant d'écrire, vous pensez. Qu'est-ce que sont vos plus grands désirs? N'écrivez pas plus qu'une page. Ou je devrais dire le plus grand, pas les plus grands désirs. Même bout, deuxième chose. Qu'est-ce que vous voudriez avoir inscrit sur votre pierre tombale comme épitaphe? Okay. Pour vous inspirer, j'ai copié quelques épitaphes que j'ai trouvées sur l'Internet. Si j'y par l'amour bleu, le cardinal de Richelieu. Et ce qui cause mon ennui, ma pension avec lui. Si j'ai un fameux cardinal qui fit plus de mal que de bien, le bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il fit bien. Jean de La Fontaine. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire, quant à son temps bien sûr le dispenser. Deux parents fit, dont il saoulait passer, l'une à dormir et l'autre à rien faire. Benjamin Franklin, le corps de B. Franklin, imprimeur, telle la couverture d'un vieux livre dépouillé de ses feuilles, de son titre et de sa dorure, repose ici, pâture pour les vers, mais l'ouvrage ne sera pas perdu et reparaîtra, c'est la foi de Franklin, dans une nouvelle édition, plus élégante, revue et corrigée par l'auteur. Robespierre. Passant, ne pleure pas ma mort, si je vivais, tu serais mort. Groucho Marx. Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Par un certain monsieur Laurent, si j'ai ma femme, oh, qu'elle est bien, pour son repos et pour le mien. Et quelqu'un a mis, maudit soit le destin qui nous t'a ravi, si ton cœur s'est éteint, dans le nôtre, tu vis. Ben, vous voyez que pas tous les épitaphes étaient formidables. Quelques-uns étaient rigolos. Il y en avait quelques-uns qui étaient sérieux, comme un en anglais, où il disait « Là où je vais, tu dois me suivre. » Et quelqu'un a écrit en dessous « Avant de savoir où tu es parti, je ne suivrai pas. » Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est regarder si votre plus grand désir et ce que vous voudriez avoir écrit sur votre épitaphe conjugue, s'ils vont ensemble. Et si ce que vous désirez le plus n'amène pas à l'épitaphe que vous voudriez, peut-être quelque chose doit changer. Golden Hill a dit, la religion de quelques personnes me rappelle un cheval à bascule. Il y a beaucoup de motions sans progrès. Si vous ne savez pas où vous allez, toutes les routes amènent nulle part. Maintenant, pour savoir où nous allons, il faut que nous comprenions au moins un peu comment Dieu nous a fait. La première chose, je vais en parler dans notre prochaine section, parce que c'est la chose la plus importante et demande plus de temps. C'est caractère chrétien. Si ça manque, tout le reste amène nulle part et nous détruisons par notre caractère chrétien ce que nous essayons de faire. Par la suite, il est important de connaître nos talents. Si vous me demandez de chanter, il y aura beaucoup de personnes qui vont sortir le plus vite possible. Parce que je n'ai pas de talent pour chanter. Et ça ne vaut pas la peine faire ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le talent. C'est tellement évident que je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer. Par la suite, quel est ou quels sont mes dons spirituels? Je voudrais vous poser la question, quelle est la différence entre un talent et un don spirituel? Allez-y. Comme vous êtes des étudiants et brillants et tout le reste, vous savez bien sûr quelle est la différence. Pardon? Tout à fait correct. Si vous avez apparemment un don depuis que vous avez un an, c'est pas un don, c'est un talent. Maintenant, il y a une chose, pas mal de talents peuvent être liés à un don. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un chanter et ça a touché profondément votre cœur? Ça vous a apporté quelque chose de spirituel. C'était pas simplement de la jolie musique. C'était pas seulement une belle voix. C'était un ministère à votre âme. Un talent accompagné d'un don spirituel. Qui parmi vous a une bonne idée quels sont vos talents? Seulement, vous n'avez jamais réfléchi. Écoutez, après tout, c'est Dieu qui vous les a donnés. Alors, c'est peut-être le temps de vous réveiller et commencer à voir. Comment est-ce que vous savez si vous avez un talent? Comment? En le faisant. Comment est-ce que je sais que je ne sais pas courir un marathon? Ah ben, je n'ai même pas besoin de courir un marathon complet. Les premiers quelques centaines de mètres, ça suffit. C'est la même chose avec les talents. Une fois chanté, ça y est, même pas terminé la première strophe. Comment est-ce que vous savez? Non. D'abord, qui sait ou a au moins une bonne idée quels sont ces dons spirituels? On peut en avoir plusieurs. Qui? Encore une fois, ça n'est pas beaucoup de personnes, non? Trois ou quatre parmi vous, c'est un peu peu. Regardez. Notre vie nous est donnée pour servir Dieu. Et pour ça, il nous a donné les talents et davantage les dons spirituels. Si je ne sais pas ce que Dieu m'a donné, c'est parce que probablement je n'ai pas essayé de le servir. Servir, c'est pas tout simplement chanter ses louanges. Les dons ont été donnés pour l'édification de son Église. Et ça commence par l'évangélisation jusqu'au complet. Maintenant, un des problèmes, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment découvrir ces dons. La première chose que je dirais, c'est quand tu fais quelque chose, alors ça veut dire être assis et réfléchissant ne va pas aider beaucoup à découvrir tes dons. Il faut te mettre à l'œuvre. Et je dirais, fais-le dans l'église locale. Il n'y a jamais assez de personnes qui font le travail de l'église. Je n'ai pas l'impression non plus que Marc se plaindrait qu'il y a trop qui veulent travailler au sein du GBU. Essaye de faire quelque chose. Tu fais une étude biblique, par exemple, et pour commencer, tu es tellement nerveux qu'après 5 minutes, tu as terminé. Et l'étude était prévue de durer 1 heure. Alors tu laisses tomber? Non. C'est normal qu'on est nerveux. Si après 5 ou 6 fois, quand tu le fais, maintenant tu n'es pas tellement nerveux. Si tu ne prouves aucune joie quand tu le fais, ce n'est pas très probable que tu aies le don pour cela. Avant de le faire, tu peux avoir des craintes et des sueurs. Et quand tu as terminé, tu peux penser, ah, c'était horrible. En passant, vous n'êtes pas bon juge de comment c'était. Quelquefois, je me rappelle avec ma première femme, nous étions en ce temps-là en ville maintenant, et après que j'avais prêché, je lui demandais toujours, alors, c'était comment? Et une fois, je me rappelle encore, ah, aujourd'hui, ça, c'était merveilleux. Ça a vraiment marché. Je pouvais dire ce que j'avais sur le cœur. Je lui demande, tout excité, c'était comment? Oh, c'était pas mal. Je me rappelle d'une autre fois, j'étais tellement déçu. Après 1 heure, je me suis aperçu qu'une heure est passée et je suis encore très très loin de la fin. Alors j'ai terminé le plus vite possible et j'étais tellement abattu, je ne lui ai même pas posé la question. C'était comment? Et plus tard dans la soirée, elle m'a dit, c'était incroyable. C'était formidable. Hein? Vous êtes mauvais juge. Vous ne savez pas. Le meilleur va être ou votre mari ou votre femme. Ils peuvent vous dire la vérité. Première chose alors, c'est quand vous le faites, ça vous apporte de la joie. Deuxièmement, un bon guide, un mentor. Est une des meilleures choses. Je n'ai pas énormément de confiance quand on essaie de découvrir les dons par écrit, c'est-à-dire surtout sur l'ordinateur, parce que ça dépend de ce que vous mettez, comment ça sort. Et ça peut être énormément loin de ce qu'est la vérité. Un bon mentor c'est pas facile de trouver. Parce qu'il faut plusieurs qualités qui ne sont pas surabondantes. Allez, j'ai votre pasteur, et dites-lui que j'ai besoin de découvrir mes dons. Je veux le faire en servant l'Église. J'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez suggérer 3, 4, 5 personnes comme possibilité? Ne demandez pas une personne, parce que si la personne suggérée, vous ne voyez vraiment pas travailler avec cette personne, vous avez un gros problème. Si vous faites ce que le pasteur vous a suggéré, vous êtes malheureux. Si vous ne le faites pas, c'est le pasteur qui est malheureux. C'est une situation où on ne peut pas gagner. Mais si vous demandez 3, 4, 5, il ne va pas se rappeler qui il a suggéré ou qui il n'a pas suggéré. Ici, vous prenez numéro 6, ça passe sans problème. Alors, quelles sont les qualités de quelqu'un qui vous accompagne dans ce sens? Premièrement, ils doivent investir du temps. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir si tu chantes bien, s'il n'était jamais là quand tu as chanté? C'est évident, non? La même chose est vraie pour un ministère. Et chaque fois que vous faites quelque chose pour le Seigneur, la personne doit être là. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un intérêt à vous aider et être prêts à sacrifier du temps. La deuxième chose, il devrait avoir une idée comment est-ce que ça pourrait être si vous avez un don pour cela. En passant, quand vous faites quelque chose, il y a probablement quantité de personnes qui vous disent « Ah, c'était merveilleux !» Ne le croyez pas. Ils sont contents que vous avez finalement fait quelque chose. Et en plus, ils sont très mauvais juges. Si c'est quelque chose de valeur spirituellement. Un mentor doit avoir une idée. Oui, la plupart des gens sont des menteurs, mais vous avez besoin d'un mentor. Doit avoir une idée comment ça serait si c'est un don spirituel. Troisièmement, il doit être absolument honnête. Ça ne vaut pas la peine qu'il te dise oh, tu as quelque chose là, continue. Quand dans son cœur et dans sa tête, il pense, quelle horreur. Il doit être honnête et ça blesse. C'est dur. Quatrièmement, tout don spirituel exercé sous la direction du Saint-Esprit produira des fruits spirituels. Maintenant, pour quelques-uns des dons, c'est très vite évident. Tu sais très très vite si tu as vraiment un grand don d'évangéliste. Comment? Ah ben, si des gens se convertissent. je ne parle pas qu'ils font une décision, c'est tout à fait autre chose, mais qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et si ça n'arrive que une ou deux fois par siècle, ce n'est pas probable que tu aies un don d'évangéliste. Par contre, il y a d'autres dons, comme par exemple enseigner la parole. Ça prend du temps qu'il ait des fruits spirituels. Quel est le fruit spirituel de l'enseignement biblique? Ce n'est pas afin que les gens savent davantage ce que la Bible dit. Enseignement spirituel n'est pas parallèle à l'enseignement de l'arithmétique. En autre parole, enseignement spirituel ne produit pas simplement connaissance, ça produit transformation de vie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très probable qu'il y ait un don. Ou alors, vous l'avez fait seul, sans être dirigé par le Saint-Esprit. Tout ministère spirituel peut être fait machinalement où l'Esprit de Dieu n'est pas en action et le résultat est zéro, et quelquefois pire que ça. Un bon mentor normalement entre 6 et 8 semaines peut vous dire si vous avez ou vous n'avez pas un don spirituel quand vous faites quelque chose. Maintenant, il faudrait aussi dire au pasteur, quand vous lui demandez ça, je veux servir au sein de l'Église, mais je ne veux pas faire la même chose pendant les prochains 60 ans. Comment est-ce que vous allez découvrir si vous ne faites qu'une seule chose? Et quelques-uns des dons ne sont pas nécessairement découverts tout de suite. Enseignement biblique n'est pas trop probable que ça se voit très vite chez vous. Pourquoi? Tout simplement, vous n'avez pas assez de bagages bibliques. Vous ne connaissez pas assez bien le Seigneur. Et ça prendrait encore un peu de temps de mûrir avant que quelque chose se manifeste. Mais un bon mentor peut ne pas voir des autres choses. Un jour, un prof à l'école biblique m'a dit: Willy, est-ce que tu as considéré l'enseignement biblique? J'ai dit non. Mais pourquoi? Il dit: il paraît que tu as une compréhension du tout, le grand image, c'est essentiel pour un enseignement de la parole. Hein? Intéressant. Un an plus tard, il m'a dit: j'ai vu ce que c'est. Et intéressant, ce qu'il m'avait dit en ce moment-là était exactement la même chose que j'avais découvert. Quand le mentor et toi sont d'accord, c'est une très très grande confirmation. Alors, il faut connaître vos talents, il faut connaître vos dons spirituels. Il faut aussi savoir quelle espèce de personne es-tu. Et je ne parle pas ici des petits Français. Comme on a des exemples. Je parle de votre façon d'être. C'est évident que nous ne sommes pas tous pareils. C'est bien, non? Ce serait horrible si tout le monde était pareil. Alors, les grandes différences sont: est-ce que tu es quelqu'un qui est introverti ou extroverti? Vous tous savez ce qu'est un extroverti, non? Pas mal, pas mieux, n'ont pas de bouton qui dit arrêt. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Un introverti n'est pas quelqu'un qui travaille bien avec des personnes. Mais il est la personne idéale pour faire traduction de la Bible, par exemple. Il est mieux devant un ordinateur que devant une autre personne. Si tu es introverti, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler avec des personnes. Que vous le croyez ou non, Angela est introvertie. Vous l'avez remarqué hier? Elle l'a vaincu. Comment est-ce que vous savez, au fond, si vous êtes introverti ou extroverti? Parce que malheureusement, ce n'est pas toc, toc. Il y a toute une gamme entre extrêmement d'un côté ou extrêmement de l'autre. Comment est-ce que vous récupérez vos forces? Un introverti a besoin d'être seul, à part. Un extroverti reçoit de pouvoir quand il est avec des personnes. Très, très différent. Et ça peut vous aider. Une fois, deux étudiants dans une école biblique m'ont demandé ou m'ont dit qu'ils voulaient être des traducteurs de la Bible. Et en passant, c'est très dangereux d'accepter quand quelqu'un dit la chose la plus importante de faire et ils vous disent c'est travailler comme traducteur de la Bible ou etc. C'est ce qui est peut-être le plus important pour lui, mais pas pour toi. Alors, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit à l'une, je te vois bien dans ce ministère. Et je dis à l'autre, pas question. Ça va être le désastre. Toi, tu dois être avec des personnes et travailler avec des personnes. Tu vas t'ennuyer quand tu fais traduction et en plus, probablement, ce n'est pas un très bon travail que tu fais. Alors, es-tu introverti ou extroverti? L'autre chose de grande importance, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui est bien dans une boîte ou qui est mieux en dehors de la boîte. C'est un peu dangereux avec les jeunes parce qu'on aime toujours être en dehors de la boîte quand on est jeune. Je vous rappelle que ni l'un ni l'autre est mieux. Dieu les a créés les deux et on a besoin des deux. Quel est l'avantage de quelqu'un qui est bien dans la boîte? On lui dit ça c'est le travail, c'est comme ça que c'est fait, vas-y, et le font avec plaisir pendant 50 ans sans problème. Et tu as quelqu'un qui est vraiment en dehors de la boîte et immédiatement après lui avoir expliqué le boulot et comment, il commence à penser, et comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux? Ils sont jamais contents avec comment c'est fait. Pas dans le sens de critique, mais ils veulent faire mieux. Si on n'avait que des gens en dehors de la boîte, on n'arriverait jamais à rien. Parce que on change, et immédiatement, ils pensent à autre changement. Et ils changent, et ils changent, et ils changent. Quel est l'avantage d'un extroverti? Eh bien, on ne reste pas cloué dans la même boue pendant 50 ans. Il nous amène à réfléchir. C'est les introvertis qui font le boulot, c'est les extrovertis qui ont la vision. Il faut les deux. Maintenant, si tu es extroverti, c'est difficile. Les gens n'aiment pas le changement. Les seuls qui aiment un changement sont les bébés. Et vous savez de quoi ils veulent changer. Il est très important, si tu travailles avec une église ou avec un groupe comme les GBU, d'être ensemble avec les leaders avant de commencer le travail. Et leur dire, écoutez, j'aime ce que vous faites. Mais ce que vous cherchez que je fasse, expliquez-moi pourquoi on fait cela. Deuxièmement, quel devrait être le résultat de ce travail? Et troisièmement, si vous êtes d'accord avec les leaders, est-ce que vous me soutenez si j'essaye de le faire autrement? Toujours visant la même chose, mais peut-être la façon d'y arriver est différente. Si les leaders sont de votre côté, vous pouvez réussir. Si les leaders ne sont pas prêts à vous soutenir, ne commencez même pas, parce que ce ne sera que la guerre. Pour avoir un ministère, et n'oubliez pas, chacun de nous est appelé à avoir un ministère pour le Seigneur. Il faut que nous sachions ce que Dieu nous a donné et comment il nous a créé. Nos talents, nos dons, notre façon d'être et notre façon de faire. Et par cela, nous pouvons déjà jusqu'à un certain point éliminer un tas de possibilités. C'est pas pour moi, c'est pour des autres. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, mais ça ne vaut pas la peine pour moi de l'essayer. C'était un peu en vitesse, quelque chose là-dessus. En terminant, Dieu ne dirige pas toujours selon que nous pourrions penser. Moi, je suis un dehors de la boîte complètement. Je n'ai jamais su accepter sans réfléchir si on ne pourrait pas faire mieux. Et le Seigneur m'a envoyé à être traducteur de la Bible et de faire du travail linguistique pionnier. Ça ne va pas ensemble, non? Alors pourquoi il a fait ça? C'est parce que c'est quelque chose que pas tout le monde a. Je suis comme un chien. quand il mord, il ne lâche plus. Et pour faire un travail pionnier, où il a fallu 13 ans pour avoir le premier converti, et où après quelques années, la mission a dit, on va te retirer, on va te mettre ailleurs où on a besoin de toi. Et j'ai dit, si vous mettez quelqu'un d'autre, d'accord, mais s'il n'y a personne, c'est ici qu'on a besoin de quelqu'un. C'était plus important que la manque, que autrement aurait été beaucoup, très, beaucoup important. Alors, te connaissant et sachant ce que Dieu t'a donné, n'élimine pas la nécessité d'être dirigé par le Saint-Esprit.